With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
L'hospitalisation, j'ai pas si souffert que ça. En fait, ça a été la sortie de l'hôpital le plus difficile. La rééducation, comme tu l'as dit, c'est pour moi réapprendre à vivre, quoi. Parce qu'on se sent nul, on se sent vraiment débile, on n'arrive à rien, on se sent empoté, quoi. Et en rééducation, c'est là où on va tout réapprendre. On va apprendre à manger, à écrire et même à marcher. Moi, mon plus beau souvenir aujourd'hui dans ma vie, c'est ça, quand je refais mes premiers pas.
Salut, c'est Hugo de Hugo Décrypte. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chef. Alors, chaque semaine, je reçois une personnalité, quel que soit le domaine. Ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur avec qui je me pose dans le salon, confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements. Bienvenue, du coup, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je termine avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup, diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Décrypte chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités, eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Salut Théo.
Salut.
Bah, enchanté.
Enchanté.
Plaisir de te recevoir ici. Théo Curin, vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui pour revenir sur ton parcours et sur tes points de bascule, comme on les appelle, les moments marquants de ta vie. Bon, t'es encore très jeune, mais qui ont fait que t'es là où t'es aujourd'hui. Théo Curin, certains te connaissent, même beaucoup te connaissent déjà. D'autres te connaissent peut-être moins, ou alors te connaissent de nom, mais ne savent pas forcément te situer. T'es double vice-champion du monde de natation handisport. On va pouvoir forcément en parler. T'as 21 ans. Ça a 15 ans que tu as commencé le sport de haut niveau et donc tout est allé assez vite pour toi. Aujourd'hui, en plus d'être nageur, tu multicasquettes, j'ai envie de dire, tu fais pas mal d'autres choses. On te voit comme chroniqueur TV radio, comme mannequin, tu es aussi youtubeur même aujourd'hui.
Ouais, mon échelle.
Instagrammeur, enfin, bref, tu es sur les différents réseaux sociaux. Ambassadeur aussi de marque notamment, de Biotherme plus récemment, enfin bref. Tu fais pas mal de choses différentes, mais le sport, on va le voir, c'est un élément quand même central dans ce que tu fais au quotidien. Tu es aussi comédien, on pourrait le citer aussi, beaucoup t'ont peut-être vu dans Plus belle la vie notamment, mais pas que. Tu vas être dans le téléfilm Andy Gang, qui sera diffusé en prime time en avril, notamment sur TF1. Et tu as sorti aussi un livre,
enfin,
c'est l'instant où je peux tenir un livre comme on fait la promo d'un livre en télé, La chance de ma vie, qui est une autobiographie sur ton parcours ces dernières années et ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui. Et ça tombe bien, parce que c'est le sujet aussi d'aujourd'hui.
Donc, impeccable.
C'est franchement plutôt raccord là-dessus. On va donc revenir sur les différents points de bascule qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Et évidemment, parmi ces points de bascule, on va commencer par un point de bascule qui est un moment dur pour toi, mais qui t'a aussi forgé à tout point de vue, qui t'a appris beaucoup de leçons. Ce point de bascule, c'est un moment, une date, le 18 mai 2006. C'est un jeudi matin, tu es chez toi à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle. Ta mère, à ce moment-là, vient dans ta chambre pour te réveiller et elle te découvre à ce moment-là dans un état qui est critique. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là et ce qu'il en était ?
Ouais, évidemment, c'est un matin qui est pas normal, c'est un matin qui est hyper bizarre. Moi, à l'époque, je suis le gamin un peu casse-cou, tu vois, qui se blesse tout le temps, qui fait souvent des allers-retours aux urgences, justement. Mes parents, ils en pouvaient plus. Mais par contre, j'étais le gamin qui se plaignait très rarement, et encore moins de petits bobos. Et le matin, quand je me lève et que je dis à ma maman que j'ai un très très gros mal de tête, on sait pertinemment qu'il se passe quelque chose. Et du coup, bah, comme tout parent, on décide d'aller chez la pédiatre. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que la pédiatre, elle trouve rien d'anormal. Elle dit que c'est sans doute viral et qu'il faut que je me repose uniquement, quoi. Elle me donne même pas de traitement. Et en fait, mon état s'est aggravé dans la journée quand j'étais chez ma nourrice parce que j'étais pas allé à l'école. J'ai fait un pic.
Là, t'avais 6 ans,
c'est ça? Ouais, j'étais tout petit, j'avais 6 ans. Donc, on me dépose chez ma nourrice et là, j'ai fait un pic de fièvre de jusqu'à 42. Donc là, forcément, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et mon père est venu me rechercher et il m'a posé sur le canapé dans notre appartement et je me suis mis à convulser. Et c'est à partir de là que tout a véritablement commencé, quoi.
Parce que du coup, quand est-ce que tu as su concrètement ce que tu avais et qu'est-ce que tu avais pour que tout le monde comprenne ce diagnostic-là?
Du coup, il y a un avantage en fait à ce moment-là, c'est que je vis en HLM avec mes parents et ma grande sœur Océane. Et l'avantage de vivre dans cet HLM, c'est d'être en plein milieu du centre-ville, donc à côté de la caserne des pompiers. Donc les pompiers ont été hyper rapides à intervenir quand je me suis mis à convulser, et c'est sans doute ça qui m'a sauvé la vie. Et ils m'ont emmené aux urgences de Lunéville, et c'est là qu'on m'a diagnostiqué une méningite bactérienne avec un purpura fulminant. Et en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une bactérie qui se balade dans les vaisseaux sanguins et qui nécrose en fait les extrémités, en l'occurrence mes mains et mes pieds. Et à partir de là, la prise en charge n'était plus tout à fait la même que ce qu'on avait prévu le matin même, mais voilà, c'était rassurant déjà parce qu'on savait ce que j'avais.
Et à ce moment-là, du coup, c'est des mois de combat pour lutter contre cette maladie. C'est près de 5 mois d'hospitalisation, il me semble, qui commence avec 2 semaines de coma au début. Est-ce que tu peux nous raconter cette période-là? Comment est-ce que tu l'as vécu? Si tu en as des souvenirs, on imagine que oui.
C'est assez paradoxal parce que j'ai très, très peu de souvenirs. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que j'ai plus du tout de souvenirs de mon enfance, d'avant la maladie. Tout ce que je raconte dans le livre, c'est joli parce que c'est ce que mes parents m'ont raconté, en fait. Donc ce livre, on l'a un peu écrit aussi à plusieurs, quelque part. Et forcément, c'était quoi ta question déjà?
De comment évolue à ce moment-là, toi, comment est-ce que tu le vis et comment est-ce que ces semaines de
ce... Ah oui, voilà, les souvenirs de l'hôpital. Ouais. Donc en fait, j'ai plus de souvenirs d'avant l'hôpital, mais j'ai aussi plus trop de souvenirs de l'hospitalisation. Et surtout, ce qui choque les gens, c'est que les peu de souvenirs qui me restent de l'hôpital, c'est des bons souvenirs. Alors qu'à chaque fois, quand on raconte l'hôpital, on a l'habitude que ce soit dark, que ce soit terrible, que ce soit vraiment terrifiant. Et en fait, non, moi, je garde des très bons souvenirs de l'hôpital. Je garde des souvenirs des clowns qui venaient me voir les mercredis. Je me souviens des visites de mes proches. C'est ça qui me reste en tête, quoi.
Et pour bien comprendre, et pour que tout le monde comprenne ce qu'il en est avec cette maladie, pour sauver ta vie, les médecins ont dû t'amputer. De tes bras ou d'abord de tes jambes, mais ensuite de tes bras. C'est comment ça fonctionne, sans rentrer dans les détails scientifiques, mais pourquoi ça... C'était la crainte que ça se propage, c'est ça?
Ça se propageait, en fait. Ça se propageait tous les jours. Il faut imaginer une petite bactérie, si on peut imaginer ça, qui grappille petit à petit, de jour en jour, plus d'espace dans le corps. Et en plus de ça, moi, j'ai fait face à des complications. J'ai fait un staphylocoque doré, donc une infection dans un milieu hospitalier, et un début de septicémie, donc une infection du sang. Et à partir de là, les médecins se sont dit, si on ne fait pas quelque chose, là, on va vraiment le perdre. Et c'est là où ils ont annoncé à mes parents qu'on allait m'amputer d'une première jambe, ensuite de mon autre jambe, et ensuite de mon bras gauche, ensuite de mon bras droit. Mais ça s'est fait progressivement. On ne m'a pas amputé des 4 membres d'un coup, parce qu'on a vraiment essayé de retarder au maximum chaque amputation.
Ouais. Et ce qui est par ailleurs assez intéressant dans ce que tu racontes, c'est que tu... Certes, alors, d'un point de vue extérieur, on pourrait voir ça comme une défaite. En tout cas, forcément, tu perds tes 4 membres, donc on pourrait voir ça comme un échec. Mais ce que tu t'expliques ou que tu racontes, c'est que toi, tu le vois comme une victoire, au final, une victoire contre la bactérie. C'est parce ça. Que certes, ça a forcément eu des conséquences pour toute ta vie ensuite, mais c'était une victoire contre la maladie à ce moment-là.
C'est ça. C'était le premier combat de remporter qu'on a remporté parce qu'en fait, pour moi, je n'ai jamais été tout seul. J'ai toujours été super bien entouré et je pense que c'est ma principale force aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on me dit à l'hôpital, c'est bon, tu es sauvé, et j'ai l'impression d'avoir remporté mon premier combat, quoi. Donc c'est une belle victoire et ça nous fait du bien à tous.
Et sur ce handicap-là, dans les années qui ont suivi, tu l'as du coup eu très tôt, on l'a dit, hein, tu étais à l'hôpital vers tes 6 ans, il y a forcément eu après l'école qui a suivi, le travail de rééducation aussi derrière. Le fait de vivre avec cette situation de handicap quand tu es aussi jeune, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu étais conscient de ça? Est-ce que tu l'as vu via le regard des autres? Comment est-ce que ça s'est fait?
C'est ça, en fait, comme je viens de le dire, l'hospitalisation, je n'ai pas si souffert que ça. En fait, ça a été la sortie de l'hôpital le plus difficile. La rééducation, comme tu l'as dit, c'est pour moi réapprendre à vivre, quoi. Parce qu'on se sent nul, on se sent vraiment débile, on n'arrive à rien, on se sent empoté, quoi. Et en rééducation, c'est là où on va tout réapprendre. On va réapprendre à manger, à écrire et même à marcher. Moi, mon plus beau souvenir aujourd'hui dans ma vie, c'est ça, quand je refais mes premiers pas. Et je sais pas, c'est des moments où on nous remet en difficulté aussi. Où on nous dit, bah non, là, il va falloir que tu te débrouilles pour manger. Là, il va falloir que tu te débrouilles pour fermer ta braguette tout seul. Et du coup, voilà, c'est des petites choses comme ça, tu vois, plein de petites victoires qui m'ont fait du bien.
Et qui, forcément, qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, tu racontes qu'un de tes moments les plus forts, c'était quand tu as refait tes premiers pas. C'est un souvenir, là, en l'occurrence, que tu as, ouais.
C'est honnêtement, c'est là par contre, je serais capable de te dire des petits détails jusqu'à les chaussures qu'avaient mes parents ouais. Ce jour-là, quoi, parce que mon cerveau a vraiment fait un screenshot de ce moment-là, parce que c'était fort, parce que je levais mes fesses de ce fauteuil pour la première fois et je marchais avec mes petites prothèses en carbone et c'est une belle image aussi parce qu'on se dit bah là c'est un autre combat qu'on vient de remporter.
C'est une forme de deuxième naissance quasiment. T'expliques même sur ça à vivre quoi. Donc on comprend que c'est un besoin de réapprendre du coup à faire pas mal de choses. On apprend aussi que c'est un combat pour s'accepter et à accepter son corps tel qu'il est. Ouais. Ça a été aussi quelque chose pour toi de pas évident et comment est-ce que tu as fait pour accepter ce corps-là et ce regard des autres, ça passe par quoi ?
C'est ça, c'est deux choses différentes. Dans un premier temps, on est confronté au regard des autres et ça c'est difficile. En fait, on retourne dans des endroits dans lesquels on était déjà allé. Pour autant, les gens nous regardent comme si on était un extraterrestre, quoi. Et ça, c'est terrifiant, ça fait super peur et j'ai beaucoup souffert de ça. Et en plus, mes parents étaient démunis, ils ne savaient même plus quoi faire. Donc, je ne voulais même plus aller faire les courses avec mes parents, je ne voulais même plus sortir dans la rue. Et il m'a fallu beaucoup de temps avant d'accepter le regard des autres. Mais en plus de ça, accepter mon nouveau schéma corporel, c'était encore une autre épreuve. Et la natation, en l'occurrence, bon, on en reparlera un petit peu plus tard, je pense, mais ça m'a vraiment aussi permis de reprendre confiance en moi et en mon nouveau corps. Parce que quand tu es au bord de la piscine et en maillot de bain, tu ne peux plus trop te cacher. Ouais. Et ça m'a vraiment aidé dans cette acceptation. Ouais.
Et d'ailleurs, tu expliques pas mal qu'un autre élément qui t'a aidé à t'accepter aussi, c'est une forme d'autodérision, ou d'utiliser l'humour dans une certaine façon comme outil, on va dire, de combat.
C'est clair, j'ai toujours utilisé l'humour, et encore aujourd'hui, pour dédramatiser aussi un petit peu la situation. Même quand je rencontre des gens pour la première fois, c'est assez drôle, parce que direct, ça devient un peu gênant, parce qu'ils ne savent pas comment dire bonjour. Ils paniquent, ils ne savent pas, est-ce que je dois lui serrer la main, est-ce que je dois lui rouler une pelle, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et du coup...
Au moins, le Covid, c'était plus simple. Voilà, les gens ne se posaient pas de questions.
Le check du coup, ça a été à la mode et j'étais bien content. Mais du coup, c'est vrai que c'est cool, il faut en rire, il faut dédramatiser un peu la situation. Et je l'ai toujours utilisé et ça m'a aidé, ouais.
On peut avancer avec un autre point de bascule sur lequel je voudrais revenir quelques instants, c'est ta rencontre avec Philippe Croizon. Alors Philippe Croizon, certains pareil le connaissent, d'autres peut-être pas, mais c'est un ancien ouvrier français qui est devenu athlète après la perte de tous ses membres. Il a multiplié pas mal d'exploits sportifs, comme la première traversée de la Manche à la nage qui a été accomplie lui en tant que capitaine des quatre membres le 18 septembre 2010. Et toi, cette rencontre, ça a été aussi une rencontre qui a bouleversé d'une certaine façon ta vie, tu dis qu'il y a une sorte de déclic aussi avec cette rencontre.
C'est clair.
Comment est-ce que tu l'expliques ? Qu'est-ce que ça a été ?
C'est déjà la première fois que je le vois, j'en garde des souvenirs fabuleux et même avant de lui parler, ça me rassure. Pourquoi ? Parce que déjà, je le vois arriver en voiture devant chez mes parents. Et là, je me dis, putain, je vais pouvoir conduire une voiture quand je serai grand.
T'avais quel âge quand tu l'as rencontré ?
J'avais 7 ans, 7 ans et demi, 8 ans.
C'est vraiment tout début.
Tout petit, quoi. Ouais. Et puis, il descend de sa voiture et il marche avec deux belles prothèses en carbone. Et je me dis, putain, je vais pouvoir super bien marcher avec des prothèses en carbone quand je serai grand. Et c'est pas fini. Parce que du côté passager, il y a une femme qui sort de la voiture. Je me dis, putain, je vais pouvoir avoir une femme quand je serai grand. Et tu vois, sans lui avoir parlé, il m'a déjà rassuré. Et en fin de journée, quand j'ai pris un peu confiance, je lui fais part justement du regard des autres et que j'ai beaucoup de mal à accepter ça. Et je lui demande des conseils. Et il m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu faisais avant de tomber malade quand tu voyais une personne différente dans la rue ? Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, il a raison en fait. Moi aussi, je le faisais. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que finalement, les gens qui me regardent, ce n'est pas méchant. C'est juste que c'est humain. On est forcément attiré par les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Ouais.
Plus largement, est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres, tu dirais, qui t'ont vraiment aidé à te forger tu parles d'Hakim notamment, qui a été un champion d'Europe de City Foot. Peut-être d'ailleurs qu'on peut expliquer ce que c'est le City Foot pour
ouais, ceux City Foot, c'est du foot pour les aveugles, en fait, ouais. ou pour les malvoyants. Ils mettent tous un bandeau sur les yeux parce que bah, les personnes qui sont malvoyantes, du coup, ils sont tous au même niveau. Et il y a un petit ballon avec des clochettes à l'intérieur et ils font du foot. Mais c'est hallucinant, en fait. Tu as l'impression qu'ils voient vraiment les choses. Et en fait, pas du tout. Et c'est dingue. Et Hakim, ouais, c'est une belle rencontre. C'est un mec incroyable qui a manifesté en Kabylie, je ne sais plus en quelle année, et qui a reçu 2 balles de Kalachnikov, une dans la tête, une dans la cheville. Et une des balles a sectionné ses 2 nerfs optiques. Et voilà, aujourd'hui, il s'est fait soigner en France. Et pour rendre à la France ce qu'on lui avait donné, aujourd'hui, il défend les couleurs de la France aux Jeux paralympiques. Et je trouvais l'histoire incroyable. Ouais.
Quoi. Donc, tu as eu des modèles, on a eu l'occasion d'en parler du coup là à l'instant ici, mais aussi du coup avec Philippe Croizon, de personnes qui arrivaient à avoir une vie... normal en soi, forcément avec des particularités, mais sinon tout à fait normal. Et toi, de ton côté, quand tu arrives, on avance, on fait un saut dans le temps d'une dizaine d'années, et là qui est beaucoup plus récent, et que tu as, je sais pas, 17-18 ans, que tu as cette envie peut-être d'indépendance, c'est quelque chose, j'imagine, qui arrive aussi de se dire bah, « je veux mener une vie normale », on va parler aussi de l'aspect sportif, mais « je veux mener une vie normale en passant mon permis, en faisant tout ça ».
Exactement, moi j'ai tout de suite eu cette envie de bah certes voilà, je me regarde, je me dis OK, forcément voilà, je suis handicapé, j'ai plus de mains, j'ai plus de pieds, mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, je me rends compte que je peux tout faire. Je suis autonome aujourd'hui, je vis tout seul, j'ai ma voiture, j'ai même eu un scooter.
Permis du premier coup.
Permis du premier coup. Eh ouais les gars, c'est comme
le,
ça.
Quand même le souligner,
ouais, c'est vrai, c'est des personnes à la régie, ils l'ont passé 5 fois et ils l'ont toujours pas eu.
C'est ça. Il y en a au bureau pour qui c'est la 4e ou 5e fois.
Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était vraiment mon objectif d'être le plus autonome possible. Et c'est ma plus grande fierté aujourd'hui, mais il m'a fallu du temps et ce qui est important de dire, c'est que aujourd'hui, je peux tout faire. Mais pas de la même manière que toi, par exemple. Ouais. Je ne vais pas manger de la même manière que toi, parce que je vais utiliser mes bras, je ne vais pas me doucher de la même manière que toi. Ouais. Mais on s'en fout de ça. Le plus important, c'est la conclusion. C'est que j'arrive à manger et à me doucher tout seul.
Et d'ailleurs, justement, ces petits challenges du quotidien, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais différemment? Les choses qui peuvent paraître pour toi, hein, tu racontes souvent, qui peuvent paraître un peu étonnantes ou que tu dois apprendre ou réapprendre à faire, c'est quoi?
Je sais pas, c'est tout simplement cuisiner, tu vois, ouais. Cuisiner. Déjà, les gens hallucinent que j'arrive à casser des œufs sans mettre trop de coquilles dans l'omelette, couper des aliments, m'habiller tout seul. Tu vois, c'est des choses toutes bêtes, mais aujourd'hui, j'en ai la capacité et je suis content parce que évidemment, il y a des gens qui peuvent nous aider à ça. Mais moi, je me suis rendu compte que je pouvais potentiellement le faire tout seul et j'ai toujours chercher des astuces en fait pour être autonome. Une chose que j'ai trouvée mais avec le temps, c'est pour couper par exemple ma viande. J'ai galéré et en fait j'utilise une roulette à pizza et la roulette à pizza me permet de couper n'importe quoi la roulette.
Pas que des pizzas au final.
Et... Bah, exactement et je suis fier de vous annoncer que la roulette à pizza a changé ma vie. Voilà.
Élément majeur qu'il faut noter, la roulette à pizza. Ça aurait pu être un objet, un point de bascule majeur de ta vie, cette roulette à pizza. Dans les autres choses, sur cette question du handicap, avant qu'on parle davantage de tes exploits sportifs, parce qu'il y a beaucoup de choses, tu n'utilises jamais ou quasiment jamais le mot handicap. Tu utilises d'autres termes au final pour définir ta situation. Pourquoi ne pas utiliser autant ce terme que ça?
Déjà, j'ai pas peur d'utiliser le mot handicap parce que c'est ce que je suis handicapé et j'ai pas peur ou honte de le dire. Mais c'est juste que je trouve qu'aujourd'hui, dans la société et dans le monde dans lequel on vit maintenant, il y a déjà suffisamment de catégories, tu vois. Il y a plein de choses qui se passent et je trouve que ça serait bien qu'on se rassemble plus, qu'on forme une seule et même équipe, quoi. Et j'aime bien parler de différence parce que la différence, finalement, ça nous correspond à tous, quoi. Parce que t'es différent de moi, je suis différent de toi, on est tous différents. Et c'est ça que je trouve cool et joli, en fait. Et j'aime bien insister là-dessus parce que, voilà, finalement, la différence, ça nous rassemble. Et j'ai envie qu'on se rassemble, quoi.
Donc, c'est un terme que tu utilises beaucoup. Si on avance sur ces points de bascule, un autre point de bascule majeur, et là, on rentre dans ta carrière, notamment sportive, c'est un challenge que tu t'es donné à un moment donné dans ta vie quand t'as 7-8 ans, il me semble, le fait d'aller surmonter ta phobie de l'eau.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que quand on sait, après ta carrière sportive que tu as eue dans la natation, c'est intéressant de voir ce début-là aussi. Comment, ouais. Comment ça s'est passé?
C'est vrai, à chaque fois, les gens hallucinent et ils me disent mais non, mais tu nous prends pour un con, là, c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'était une phobie, l'eau. Vraiment, j'avais très, très peur de l'eau. Quand mes parents m'emmenaient à la piscine ou quand il fallait à la piscine avec l'école, c'était l'enfer, quoi. Ouais. Et en fait, c'est en rencontrant Philippe Croizon, justement, que je me suis rendu compte que c'était accessible pour moi. Et je trouvais justement que c'est un joli message que j'allais envoyer à mes proches. Ils savaient que c'était ma phobie et j'avais envie de leur dire, voilà, il nous est arrivé ça, par contre, je vais me relever et je vais relever des challenges. Et un de mes premiers challenges, c'était d'aller au contre de ma phobie. Et du coup, progressivement, j'y suis allé, hein, mais j'y suis vraiment allé progressivement. La première fois que je suis allé à la piscine, je suis même pas allé dans l'eau. Je suis resté assis sur mon fauteuil pendant une heure, ouais, quoi. Et progressivement, on a fait des efforts. Une longueur de plus, jusqu'au jour où je me rends compte que la natation, c'est le seul endroit et le seul élément qui me permet de me déplacer comme tout le monde. J'ai plus de prothèse, j'ai plus de fauteuil, et c'est ça qui est exceptionnel.
Et est-ce que c'est ça qui t'a fait aimer, au final, la natation, ce sentiment de liberté et que tu as pu trouver dans ce sport-là?
C'est clair. Honnêtement, je ne le retrouve pas dans d'autres endroits, dans d'autres disciplines ou même dans la vie en général. Moi, tu vois, je suis hyper positif. J'ai toujours le sourire ou en tout cas la plupart du temps. Mais des fois, d'avoir un handicap, c'est contraignant. Les prothèses, des fois, ça fait mal. Quand il fait chaud, j'ai plus chaud qu'une personne lambda. Ouais. Voilà. Alors que dans l'eau, il n'y a plus tout ça, quoi. On s'en fout. Je me déplace comme tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai apprécié de plus en plus cet élément. Ouais.
Quand je reçois des gens ici ces dernières semaines, on a souvent des sportifs, des athlètes, des artistes ou autres. On a eu Pierre Gasly il y a quelques semaines, donc pilote de Formule 1, qui lui aussi, tu vois, il a commencé en faisant du karting de son côté, et puis d'un coup ça devient un truc un peu plus sérieux, ouais. Et ça devient son métier progressivement jusqu'à la F1. Dans ton cas, quel a été un peu ce point de bascule qui t'a fait passer de juste une passion qui est venue progressivement, on l'imagine, parce qu'on voit que ça n'a pas débuté comme une passion directement, la natation, en quelque chose de plus sérieux, où tu te dis, vas-y, je vais faire des compétitions, je vais faire tout ça.
Il n'y a pas eu forcément de gros déclic sur le coup, c'est juste en fait un entraîneur au bord du bassin qui m'a dit, écoute, teste-toi sur une compétition handisport, on va t'inscrire à une compétition régionale. Et en fait, c'est à ce moment-là où il y a eu un petit déclic, c'est quand je fais cette compétition régionale et que je me qualifie au championnat de France. Okay. Putain, c'est ma première compétition, je suis qualifié au championnat de France, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais. Et à ces championnats de France, je fais champion de France sur 50 mètres d'eau. Okay. Et là, je me dis, ok, là, franchement, il y a vraiment quelque chose à faire et il ne faut pas lâcher. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ok, il faut que je teste la compétition, quoi. Il faut que je progresse et pourquoi pas un jour participer aux compétitions internationales, quoi. Tout de suite, c'est venu, quoi.
Et justement, on en vient, c'est le prochain point de bascule. Moment marquant, c'est notamment ta victoire aux Mondiaux Handisport de Mexico avec deux médailles d'argent, donc c'est en fait une double victoire, une en 100 mètres nage libre et une en 200 mètres nage libre. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, forcément, tu t'en souviens de cette période-là. Qu'est-ce que ça a changé pour toi en termes de parcours, alors que quelques années auparavant, tu avais cette crainte de l'eau, ça a évolué vers tout ça. Tu as au final commencé par ailleurs le sport de haut niveau très tard. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette victoire-là, cette double victoire?
C'est la consécration, en fait. C'est la consécration parce que quand on se lance dans le sport de haut niveau, il y a forcément beaucoup de sacrifices à faire. Moi, le premier sacrifice que j'ai fait, c'est de partir de chez papa-maman. Je suis parti à l'âge de 13 ans de chez papa-maman pour intégrer une structure de haut niveau à Vichy, en Auvergne, donc à 500 km du cocon familial. Et là-bas, j'ai tout appris. J'ai tout appris déjà sur ma discipline, sur la natation, et aussi en tant que jeune homme. Parce que quand t'es à l'internat du lundi au dimanche et que t'es que avec des sportifs de haut niveau remplis de plein de choses, il faut faire sa place. Et j'ai vraiment progressé en tant que nageur, mais aussi en tant que jeune homme. Et forcément, quand on a fait tous ces sacrifices et qu'on décroche de médailles d'argent, on se sent bien, on se sent fier, et on a l'impression de pas avoir fait tous ces sacrifices pour rien.
Donc c'était un moment forcément marquant pour toi, et on te souhaite plein de gros succès aussi pour la suite. Justement cette question des succès sportifs, une question qu'on peut se poser peut-être, c'est sur le fonctionnement de ces compétitions handisport ou paralympiques, sur la façon dont ça fonctionne, parce que on l'a compris, ceux qui participent dans le cadre de ces épreuves de natation par exemple, c'est des personnes en situation de handicap. Ouais. Or, et ça, tu as eu l'occasion, il me semble, d'en parler pas mal de fois, bah, tout le monde n'a pas, de fait, la même situation de handicap, les mêmes différences, justement, que tu évoques, et certaines peuvent être moins désavantageuses, on va dire, que d'autres. Comment ça se passe dans ce genre de compétition et qu'est-ce que ça peut amener comme...
C'est exactement ça. C'est justement cette subtilité qui est difficile à trouver, à chercher, parce qu'il n'y a pas un handicap qui se ressemble, en fait. Il y a un milliard de handicaps, et même si on met à côté de moi un mec qui est amputé des quatre membres, eh ben il est pas, il a pas les mêmes longueurs de membres que moi, quoi. Donc forcément, il y a des petites choses à chercher, à trouver. Et comme tu l'as dit, des fois au sein des catégories de handicap, parce que du coup, on est classé par catégorie de handicap. En natation, il y en a 10, de S1 à S10. S1, c'est les handicaps les plus lourds, et S10, c'est les handicaps les plus légers. Et moi, j'étais en catégorie S5. Et des fois, au sein de ces catégories, du coup, bah, il y a des inégalités. Et j'en ai fait les frais parce que en 2018, je me suis retrouvé contre des mecs qui avaient leurs deux mains. Donc forcément, ils étaient bah, très avantagés par rapport à moi. Il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine hein, pour comprendre qu'ils sont avantagés. mais voilà, c'est vrai que c'était terrible parce que t'imagines, t'arrives à un championnat et t'es potentiellement le numéro un. Et en fait, la veille de la course, tu vois la start list, donc en fait le papier qui annonce les engagés, et tu vois trois mecs que tu connais pas. Et en plus, le jour de la course, ils te mettent 20 secondes. Tu dis, il y a un truc qui cloche là quand même. Ouais. Et oui, ils avaient leur demain. Finalement.
Et du coup, c'est quoi? C'est une forme de frustration, j'imagine, mais qui se comprend, qui a été, tu as pu ressentir par moment lors de ces compétitions-là. On parle des JO de Paralympiques d'été de Tokyo 2020 notamment, où tu as eu cette frustration, tu n'y es pas allé parce qu'il y avait justement cette inégalité qui a fait que en fait, tu n'avais aucun moyen quasiment, aucun moyen tout court de l'emporter.
C'est ça en fait. C'est terrible parce que moi, j'étais très énervé parce que je... En fait, quand tu réussis pas à une compétition parce que bah voilà, t'as fait un mauvais temps, ouais. Ou voilà, là tu peux en prendre qu'à toi-même. Mais là, ce qui m'énervait, c'est que je pouvais faire tous les plus gros efforts du monde, m'entraîner 6 fois par jour s'il le fallait, mais ça aurait servi à rien parce que c'est mathématique, c'est physique. Demain, ça permet d'avancer plus vite qu'un mec qu'on n'a pas. Ouais. Et c'était très difficile de se dire. Bah en fait, je peux pas devenir champion paralympique, non pas parce que je m'en donne pas les moyens, mais parce que c'est comme ça, c'est le système.
Et j'ai cru comprendre que cet échec-là, ou en tout cas cette frustration, a fait naître chez toi aussi l'envie de te lancer de nouveaux défis, de partir sur d'autres choses. Et on en vient peut-être au cinquième et dernier point de bascule qu'on va pouvoir voir ensemble. C'est un lieu que je voulais voir maintenant avec toi. C'est un lac, forcément, le lac Titicaca. T'es à ce moment-là, en novembre 2021, était le premier avec deux nageurs valides à traverser à la nage le lac le plus haut du monde qui se situe dans la cordillère des Andes entre le Pérou et la Bolivie. C'est un lac qui culmine à 3800 mètres d'altitude. On parle de 122 km à la nage, il me semble. À quel moment tu t'es dit, comment est-ce que tu t'es dit, vas-y, on se lance un petit défi et celui-ci me semble pas mal.
Ouais, bah on pourrait croire que j'étais
dans
bourré.
Dans une 9 degrés au passage.
Ouais, c'est vrai. On pourrait croire que j'étais bourré quand j'ai annoncé ça, mais pas du tout. En plus, c'est ça le pire. Non. En fait, quand je faisais face à ces problèmes de classification, je me suis dit, ok, je vais pas pouvoir lutter contre ça toute ma vie. Et en tout cas, j'en ai pas envie. Donc j'ai mis ça de côté et arrive le confinement, le Covid. Et à ce moment-là, je me remets beaucoup en question. Je me dis, mais j'ai envie de quoi? Et en fait, j'ai envie de challenge, j'ai envie d'aventure et j'ai envie de garder un rapport avec l'eau très important. Et c'est à partir de là qu'est venue l'idée du lac Titicaca en discutant avec Anne, mon agent. Et on a écrit l'histoire petit à petit. Il y avait tout à écrire parce que ça n'avait jamais été fait, cette traversée. Et c'est ça qui me plaisait aussi, c'était d'inscrire notre nom dans l'histoire un petit peu du sport. Et voilà, faire un truc qui n'avait jamais été fait, c'était vraiment un peu mon leitmotiv sur le moment.
Mais c'est aussi une prise de risque potentielle parce que tu peux te dire, il y a certaines traversées, certains exploits qui sont connus, entre guillemets, je ne sais pas, même dans d'autres domaines, on peut se dire gravir le Mont Blanc, beaucoup l'ont fait, c'est un défi majeur, mais beaucoup de gens l'ont fait. Là, c'est quelque chose de radicalement nouveau. Tu peux imaginer qu'il y a des imprévus, il y a des risques associés. Tu as ressenti de la peur à ce moment-là? Et même, est-ce que tu ressens de la peur quand tu fais face à ce genre d'épreuve?
Évidemment. Pas tout de suite, hein. C'est vraiment quand on est arrivé sur place et que les locaux nous disaient « mais c'est vraiment pas une idée, là. C'est vraiment pas une bonne idée ce que vous êtes en train de… »
Vous êtes les premiers, c'est…
Et ils nous rassuraient pas. Et les gens là-bas, le lac, il est sacré. Hein. Il fait très peur, ce lac, pour eux. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de pêcheurs noyés, etc. Et il nous disait, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, c'est pas super rassurant juste avant le départ. Et en fait, on a vécu des choses extraordinaires sur ce lac. On a vécu des tempêtes, des orages. La foudre est tombée à 10 mètres de nous. On a vécu une tempête la nuit en plein milieu du lac à la dérive avec des creux d'un mètre cinquante. Donc des vagues d'un mètre cinquante, je ne pensais pas que c'était possible sur un lac, mais si, je l'ai vu de mes propres yeux. Et forcément, quand tu vis ça, tu te dis, putain, mais moi j'étais parti pour faire une expédition, mais je n'étais pas parti pour mettre ma vie en jeu, quoi.
Mais surtout que tu fais face du coup à ce moment-là et à des situations plus de l'ordre de la survie quasiment, voire même tout court, avec même des gestes qu'il faut faire du coup. On parlait tout à l'heure du fait de s'habituer à faire des gestes du quotidien. C'est pas des gestes du quotidien ce dont on parle ici. Parfois, c'est des gestes qui sont beaucoup plus extraordinaires à tout point de vue. Peut-être que cette crainte, elle est peut-être aussi renforcée par ça, par ta position et ta place là-dedans ?
Mais c'est clair, parce qu'on est que tous les trois sur notre embarcation et on n'a pas d'assistance, il n'y a pas un bateau qui nous suit, on est vraiment seul au monde. Et justement, il a fallu qu'on apprenne plein de gestes justement à bord. On avait un défibrillateur, on avait des affaires de secours et on avait juste une balise GPS en fait avec un téléphone satellite au cas où s'il nous arrivait un truc. On l'a déclenché une seule fois. C'était pour que nos amis de TF1 puissent venir faire quelques petites images au milieu de la traversée. Ils ont mis 4 heures à nous retrouver avec l'armée bolivienne. C'est pas super rassurant quand tu dis s'il arrive un pépin, ils peuvent mettre 4 heures à venir nous secourir. Pas Donc pas ouf, mais c'est intéressant.
Et d'ailleurs, dans les prochains défis, là, est-ce que tu en as déjà qui sont prévus ou est-ce que j'imagine que tu vas en faire d'autres à l'avenir ?
Ouais, là j'ai annoncé justement que j'allais participer à une course en Argentine qui s'appelle la Santa Fe Coronda. C'est la course de natation la plus dure au monde, aux yeux des nageurs en tout cas. C'est 57 km en one shot cette fois-ci parce que la traversée du lac, on a mis 11 jours. Et là vraiment, je vais être tout seul à partir. Et c'est une course qui n'a jamais été faite par une personne en situation de handicap. Et justement, j'ai envie de ça, de mettre encore un petit record en plus et de prouver au peuple argentin qui n'est pas trop en avance sur le sujet du handicap, j'ai envie d'y aller et leur prouver que finalement, on peut se relever et réaliser des choses complètement dingues.
Je voudrais qu'on termine avec un sixième et dernier point de bascule. On a parlé de ta carrière sportive. On l'a dit aussi, tu es multicasquette, tu fais plein de choses différentes. Et là, fin 2019, tu es devenu l'égérie de la marque de cosmétiques Biotherm qui appartient au groupe L'Oréal. La raison pour laquelle j'en parle, c'est pas tant sur la collaboration en tant que telle, même si forcément, en tant que mannequin, c'est quelque chose de majeur, mais c'est pour poser aussi une question plus large sur la représentation dans les médias, mais aussi du coup dans ce domaine-là de la publicité ou autre, de figures qui ont des différences comme tu as pu les évoquer. C'est quelque chose pour toi qui est important. Comment est-ce que tu le vois, cette question-là ?
Mais ouais, mais c'est hyper important et c'est super important de dire que déjà on est sur la bonne voie. Nous, les Français, on est sans arrêt en train de dire « Ouais, on a la bourre par rapport à tel et à tel pays sur certains sujets. » Mais moi, franchement, je suis déterminé à dire qu'on est sur la bonne voie. Les choses sont en train de changer. Qui aurait dit, il y a 10 ans de ça, qu'un mec sans bras ni jambes, avec des cicatrices sur tout le corps, allait représenter une grande marque de cosmétiques ou alors collaborer avec une marque de vêtements? Ça, c'était mais impensable. C'était impensable, ça faisait peur. Le handicap, il fait peur aux gens. Ouais. Et du coup, les choses sont en train de changer et dans tous les domaines. Dans le mannequinat, on le voit, dans les fringues, à la télé, au cinéma. Et c'est trop bien, il faut qu'on continue comme ça, quoi.
D'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc qui revient aussi souvent dans l'actualité. On a parfois des retours, tu sais, on entend telle personne va être incarnée par telle ou telle personne. Et souvent, on a parfois des retours de gens qui disent c'est trop bien, ça fait avancer, mais aussi des retours de gens qui disent oh là, mais c'est bon, en même temps, il n'y a pas besoin ou quoi. Toi, ce qui fait, selon toi, que c'est important, c'est quoi ? Je prends le cas, par exemple, de ton rôle dans Plus belle la vie, c'est que c'est aussi de ne pas seulement jouer le rôle d'une personne en situation de handicap, mais juste jouer le rôle d'une personne. Et voilà, certes, tu as des différences, mais sinon, tu es personne à la communauté.
C'est ça, c'est ce que j'ai aimé justement avec Plus belle la vie, c'est qu'au départ, on implante le décor, évidemment, on dit ce qui m'est arrivé dans le scénario, et après, on s'en fout, quoi. L'histoire, l'intrigue de la famille, en fait, c'était une histoire qui n'avait rien à voir avec mon handicap, quoi. C'est ça qui était cool et c'est ça qui m'a plu. Et d'ailleurs, mon rêve, c'est de continuer à jouer dans des films, incarner des personnes en situation de handicap, évidemment, mais moi, je kiffe et je veux en faire plein. Mais un jour, c'est aussi peut-être passer un casting pour juste un mec assez grand avec les cheveux bouclés, point barre. tu vois. Ouais. Et si un jour je décroche un rôle comme ça, je serai le plus heureux du monde aussi, quoi.
Et c'est peut-être aussi là qu'on verra qu'il y a eu une vraie avancée, un vrai progrès, quand on se posera même plus la question de « Ah, mais tel acteur a telle différence ou tel truc », et juste on verra l'acteur en tant que tel, quoi. Pour terminer, juste sur le côté multicasquette, juste ce mot au moins 10 fois aujourd'hui, t'es aussi, du coup, on le disait, youtubeur, c'est quand tu fais, toi, des vidéos de ton côté, ou même que tu participes avec des vidéos avec d'autres créateurs de contenu qu'on a pu avoir, notamment en France, on en parlait tout à l'heure, l'objectif pour toi, c'est quoi ? C'est d'essayer de construire une communauté et parler de tes situations, tes problématiques, mais aussi de tes défis qui sont majeurs. C'est quoi l'objectif derrière ?
En fait, pour être très honnête, j'ai un peu lâché YouTube, mais parce que c'est un vrai métier, et c'est un vrai métier, et c'est très difficile, ça demande beaucoup de temps. Mais là, je suis en train de retravailler justement avec une équipe pour avoir un vrai concept, quelque chose de sympa. Et ce que j'aimais avec YouTube et ce que j'aime encore aujourd'hui, c'est on touche les jeunes principalement. Et moi, le message que je veux faire passer sur la différence, sur la bienveillance, sur tout simplement s'aimer, quoi. Ouais. C'est les jeunes en fait qu'il faut instruire. C'est les jeunes à qui il faut passer ce message-là. Donc c'est pour ça que j'ai envie de former une petite communauté aussi sur YouTube, ouais.
Et aussi, notamment sur Insta, où tu es quand même bien présent, mais ça, beaucoup sont déjà sûrement déjà au courant. Théo, merci beaucoup pour ton temps. Théo Curin, d'avoir accepté d'échanger. C'était génial, franchement.
Merci à toi.
C'est avec plein d'enseignements qui peuvent être intéressants et importants pour beaucoup de monde. Et donc, je rappelle aussi, pour ceux qui veulent connaître, parce que là, on a vu quelques points de bascule, mais tous les points de bascule,
ils sont là,
ils sont dans ce livre. Donc, il faut lire ce livre-là. Ça s'appelle « La chance de ma vie ». Tu reviens avec beaucoup d'optimisme, mais aussi d'émotion aussi. C'est très touchant sur ce parcours-là qui t'a mené là où tu en es aujourd'hui, alors que tu es encore très jeune, on l'a dit, mais tu as eu quand même beaucoup de choses à raconter dans ce livre-là. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à lire. Pour ceux qui écoutent d'ailleurs cette interview, peut-être en podcast audio, ça s'appelle « La chance de ma vie ». J'ai fait de ma différence une force aux éditions Flammarion. Et du coup, on peut te suivre sur Instagram, sur YouTube et partout, quoi. Donc, ça fait plaisir. Bravo. Peut-être sur Twitch. Peut-être,
on verra.
Un petit lancement à venir.
Non, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était génial.
Non, c'était trop cool. Merci à toi, Théo. Et puis, on suivra la suite de tes aventures et tout ce qui vient derrière.
Voilà donc pour cet échange, j'espère qu'il vous a intéressé. Pour en savoir plus sur Mashup, toutes les informations sont directement en description. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer, pourquoi pas, des noms d'invités. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.